Poséidon, chapitre 29, épisode 6. Bonsoir. J'espère que vous avez passé une agréable journée. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce 29e épisode de la mythologie. Les femmes, les maîtresses, les amantes, les nymphes et les enfants tristement célèbres de Poséidon. La sixième suite. Les amours d'Éthra et Poséidon sur l'île de Sphéra. Rappelez-vous, sous l'enchantement de la magicienne Médée, Éthra, fille du roi Pithée de Trézène, s'éprend d'Égée qui souhaite avoir un enfant pour lui succéder. Au cours de la nuit, après avoir honoré sa jeune princesse, Égée délie le col de son outre, boit et s'endort. Ne trouvant pas le sommeil, la jeune femme se réfugie sur l'île de Sphéra. Lorsqu'elle est sur le point de s'endormir, Poséidon se glisse à son tour dans la nuit, la séduit, l'étreint et s'accouple avec elle. D'où cette part divine en Thésée. De Phénicie, il eut Protée, prophète maritime. Protée est une divinité marine. Il est le vieillard de la mer et gardien des troupeaux de phoques de Poséidon. Il est doté du don de prophétie et du pouvoir de se métamorphoser. Il représente à la fois le feu magique dompté et le magicien lui-même. Mais c'est un insaisissable. Protée, protecteur des amants. Et c'est là que nous allons revenir sur l'épisode déclencheur de la guerre de Troie. Rappelez-vous, Aphrodite a promis Hélène à Paris, la femme de Mélénas, s'enfuit avec son amant. Mais où était Hélène au moment du siège? Voilà ce que nous en rapporte Philostrate. Pendant longtemps, nous avons été trompés au point d'envoyer des ambassades aux Troyens et de combattre à cause d'elle, comme si elle s'était trouvée en Ilion, alors qu'elle vivait en Égypte et dans la maison de Protée où elle avait entraîné Paris. Et lorsque la chose fut connue, nous avons continué à combattre pour la possession de Troie elle-même afin de ne pas nous retirer déshonorés. L'art de la divination multitemporelle. Non seulement Protée savait tout du passé et du présent, mais encore il avait le pouvoir de prédire l'avenir. Et malgré ce don, il se gardait bien de partager facilement son savoir. Pour le consulter, il fallait le capturer par surprise durant sa sieste de midi, car à ce moment-là, il gagnait les grottes creuses en compagnie des phoques pour s'abriter des chaleurs du jour. Et même capturé, il pouvait encore prendre toutes les formes physiques qu'il voulait afin de s'échapper. Comme nous le racontent les deux histoires qui vont suivre. Ménélas consulte par force Protée. Dans l'Odyssée, Ménélas, roi de Sparte, raconte à Télémaque qu'il y fut encalminé, c'est-à-dire que son voilier fut arrêté par l'absence de toute brise sur le chemin du retour à Sparte, après la guerre de Troie. Quel dieu avait-il pu bien offenser pour être ainsi immobilisé? Il pensa donc consulter Protée, mais il savait que c'était une tâche difficile. Il s'en ouvrit à sa fille, qui lui révéla comment forcer son père à lui dire lequel des dieux il avait offensé et comment il pourrait se racheter pour rentrer chez lui. Il se cacha parmi les phoques de Protée et, quand celui-ci émergea de la mer pour dormir parmi eux, Ménélas parvint à le capturer. Afin d'échapper à son assaillant, Protée prit tour à tour la forme d'un lion, d'un serpent, d'un léopard, d'un cochon et même de l'eau et d'un arbre. Mais ces métamorphoses diverses et multiples furent vaines et il dut répondre aux questions de Ménélas. Ce dernier apprit alors que son frère Agamemnon avait été tué à son tour chez lui et qu'Ajax, le petit, était mort dans un naufrage. Protée sauve les abeilles d'Aristée. On raconte qu'un jour, les abeilles d'Aristée, fils d'Apollon, étaient toutes mortes d'une maladie apportée par les dryades. Aristée demanda secours à Cyrène, sa mère. Celle-ci lui dit que Protée pouvait lui apprendre comment éviter un autre désastre de la sorte, mais seulement s'il en était forcé. Aristée devait immobiliser le dieu, peu importe la forme qu'il prendrait. Ainsi, Protée dut l'informer qu'il devait sacrifier un taureau au dieu, laisser la carcasse sur les lieux du sacrifice et y retourner après 3 jours. Quand Aristée revint à cet endroit, il trouva un essaim d'abeilles dans la carcasse et la rapporta dans son rucher. Les abeilles ne connurent plus jamais la maladie. Une étrange prédiction du passé. Phénicie, la mère de Protée, eut la vision de son fils en rêve, qui lui annonçait une naissance. Elle était bien intriguée, car depuis longtemps, son amant divin Poséidon n'honorait plus sa couche. Quand elle lui demanda de qui elle accoucherait, le vieillard de la mer répondit simplement « De moi, maman !» Avec la nymphe Pitane, Poséidon conçut Évadné. Évadnée, aux cheveux violets, est une nymphe, fille de Poséidon et Pitane. À l'adolescence, Pitane devient l'épouse d'Épitos, roi de Phézanne en Arcadie. Il est vrai que l'on ne demandait que rarement aux jeunes filles si le choix des parents convenait à l'enfant qui ne savait rien de la vie ni de l'amour. L'Arcadie est une région de la Grèce située au centre de la péninsule du Péloponnèse. Son relief est très montagneux, surtout au nord. Elle est baignée à l'est par la mer Égée et, bien évidemment, c'est là qu'Évadné aimait se retrouver. L'eau apaise toujours les esprits. Mais c'est aussi là qu'un jour, elle rencontra Apollon. La naissance du clan des Lamides. Ce qui devait arriver arriva. Comment, si jeune, ne pas tomber en admiration devant la beauté? C'est l'âge que l'état de grâce où l'on croit que toutes les valeurs sont réunies en une même unité, musique, beauté et amour. Et que faire devant un dieu qui incarne ces trois éléments? Nous aimerons croire que l'aventure entre le dieu et la nymphe aux cheveux violets dura quelque temps. Mais pas assez pour que l'amant divin soit un protecteur qui lui souffle les paroles réconfortantes qui lui permettront de prendre les bonnes décisions. Aimée d'Apollon, elle ne peut cacher sa grossesse à son mari. En honnête femme, repentante d'une faute commise, elle avoue tout à son mari. Mais celui-ci ne sait que faire. La tradition voudrait qu'elle subisse un châtiment, qu'elle soit lapidée ou répudiée. Le mari reste muet plusieurs jours, puis se décide à demander conseil, laissant Évadné dans la pire des angoisses. Amant, mari et amour sont trois entités distinctes dans son esprit. Mais la réalité du fruit est une présence difficile à porter. Épitos part sans rien dire et se rend à Delphes pour interroger l'oracle sur l'avenir de l'enfant à naître. Pendant son absence, Évadné se rend sur les bords de l'Alphée où Acestée d'Ilithie, déesse de l'accouchement, envoyée par Apollon, elle donne naissance à Lamos. Les Moires, divinités du destin, sont également présentes à la demande du dieu. Elles sont trois, Clotho, qui tisse le fil de la vie, L'Akessis, qui la déroule, et Atropos, qui la coupe. La fileuse, la réparatrice et l'implacable gratifient chacune l'enfant d'un don. Évadné est entraînée dans un tourbillon de pensées contradictoires. Elle souffre dans sa chair et son esprit. Elle est surtout apeurée par la naissance d'un fils illégitime. Elle décide donc d'abandonner l'enfant dans un buisson de ronces et de violettes. Là, il sera nourri de miel par deux serpents envoyés par les dieux. Pendant ce temps, à Delphes, Épitos, son mari, a appris qu'Apollon était le père de cet enfant et qu'au-dessus des mortels, l'enfant serait, pour les terrestres, un éminent devin et que jamais ne cesserait sa race. Fort de ces nouvelles, il décide intérieurement d'adopter cet enfant. Il rentre donc en Arcadie et réclame le nouveau-né qui vient de naître. Mais l'entourage d'Évadné nie cette naissance. Lamos, le nouveau-né, lui, est resté caché dans un bosquet près de l'Alphée, dieu fleuve, fils du titan Océan et de sa sœur Thétis, où il vit parmi les joncs et les violettes, dont il tire son nom. Il grandit dans le silence de la nature, enfant sauvage, parlant et écoutant les éléments, les végétaux et les animaux. Devenu jeune homme, il entre par une nuit de pleine lune dans les eaux de l'Alphée et invoque ses ancêtres divins, Poséidon et Apollon. Il sent que des changements importants s'opèrent dans son corps et son esprit. Son père lui répond et l'appelle sur le mont Cronion. Le mont Cronion est une colline qui surplombe de moins de 100 mètres de hauteur le site antique d'Olympie, situé dans une petite plaine de l'Élide sur la rive droite de l'Alphée dans le Péloponnèse. Là, Apollon ordonne à Lamos d'ériger un autel et lui confère le don de divination. Ainsi naît le clan des Lamides, famille de devins qui exerce à Olympie. Nous allons nous arrêter là pour ce soir, car je sens que vous allez rapidement retrouver les bras de Morphée, votre bien-aimé, qui vous apportera un sommeil réparateur. Les moires procèdent à chacune de nos vies. Elles tissent, déroulent et coupent. Sachez cependant qu'il n'y a pas une seconde de souffle de vie superflu et que chaque minute de sommeil et de rêve est au bout du fil présent ou à venir de votre vie, par lequel passe un devin pour vous éviter de tomber dans certains pièges ou au contraire vous guider sur ce qui inconsciemment sommeille en vous. Car vous lui posez, sans le savoir, certaines questions auxquelles, naturellement, il vous répond. Merci de votre fidélité. En espérant vous retrouver dans les suites des histoires des descendants divers et multiples de Poséidon, je vous donne rendez-vous dans le 30e épisode et vous souhaite une douce et agréable nuit.